Une rencontre. Ce fut Joe Dillon qui nous introduisit au Far West. Il avait une petite bibliothèque constituée de vieux numéros de l'Union Jack, de Pluck et des Halfpenny Marvel. Tous les soirs après l'école, nous nous retrouvions à l'arrière de son jardin et nous fomentions des batailles d'Indiens. Lui et son grassouillet petit frère Léo, le plus paresseux, tenaient le grenier de l'écurie alors que nous essayions de le prendre d'assaut, ou bien nous faisions une bataille rangée sur le gazon. Mais quelle que soit notre ardeur au combat, nous ne gagnions jamais le siège ou la bagarre, et tous nos combats se terminaient toujours par la danse de la victoire de Joe Dillon. Ses parents allaient à la messe de 8 heures tous les matins, dans Gardiner Street, et le parfum paisible de Mrs. Dillon flottait dans le hall de la maison. Mais il jouait avec trop d'âpreté pour nous qui étions plus jeunes et plus timides. Il ressemblait à une espèce d'Indien lorsqu'il gambadait autour du jardin, un vieux couvre-théière sur la tête, battant une conserve de son poing et hurlant « Ya, yaka, yaka, yaka !» Tout le monde resta très incrédule quand on annonça sa vocation pour la prêtrise. Et pourtant c'était vrai. Un esprit d'indiscipline se répandit parmi nous sous son influence, balayant les différences de culture et de constitution. Tous ensemble, nous nous rassemblions, certains avec assurance, certains avec désinvolture, d'autres avec effroi, et je faisais partie de ces derniers, de ces Indiens hésitants, qui avaient peur de paraître trop sérieux ou trop fragiles. Les aventures contées par la littérature du Far West étaient très éloignées de ma nature, mais elles parvenaient malgré tout à m'ouvrir les portes de l'évasion. Je préférais de loin les histoires policières américaines, dans lesquelles on rencontrait de temps en temps un sauvage hirsute ou une jolie fille. Bien qu'il n'y eût rien de répréhensible dans ces histoires du Far West et que leur intention fût purement littéraire, elles circulaient clandestinement à l'école. Un jour, comme le père Butler nous faisait réciter les 4 pages de l'histoire romaine, ce maladroit de Léo Dillon fut pincé avec un exemplaire du Halfpenny Marvel. « Quelle page? Celle-ci ou celle-là? Celle-là. Allez, Dillon, on y va. À peine le jour avait... »« Eh bien, continuez. Quel jour ?» À peine le jour avait-il point? Est-ce que vous l'avez appris? Qu'est-ce que vous avez là dans votre poche? Tout le monde eut le cœur battant quand Léo tendit le journal et tout le monde composa un visage innocent. Le père Butler tourna les pages en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dit-il. Un chef apache, c'est ça que vous lisez au lieu d'étudier votre histoire romaine. Ah, vous avez intérêt à ce que je ne trouve plus ces trucs minables dans le collège. L'homme qui a écrit ça était, je suppose, un minable qui écrit pour se payer à boire. Ah, oh, je suis surpris que des garçons éduqués comme vous lisent ce genre de choses. Je comprendrais si vous étiez des élèves de l'école publique. Et maintenant, Dillon, je vous préviens, retournez à votre travail, ou bien... » Cette réprimande, pendant les sobres heures scolaires, ternirent grandement pour moi la gloire du Far West, et le visage de Léo Dillon, confus et gonflé, réveilla en moi une forme de conscience. Mais dès que l'influence restrictive du collège s'éloignait, j'aspirais de nouveau aux sensations fortes, à l'évasion que seules pouvaient m'apporter ces chroniques du chaos. Les jeux de guerre de l'après-midi devinrent pour moi une routine aussi ennuyeuse que les cours du matin, parce que je voulais qu'il m'arrivât de vraies aventures. Mais les vraies aventures, songeais-je, ne surviennent pas aux gens qui restent à la maison. Elles doivent être recherchées à l'étranger. Les vacances d'été étaient presque à portée de main lorsque je décidai de rompre la monotonie de la vie scolaire pour au moins un jour. Avec Léo Dillon et un garçon nommé Mahoney, je planifiai une journée d'école buissonnière. Chacun d'entre nous économisa 6 pence. Nous devions nous retrouver à 10 heures du matin au pont du canal. La grande sœur de Mahoney devait lui écrire un mot d'excuse et Léo Dillon devait demander à son frère de dire qu'il était malade. Nous avions décidé de longer Wharf Road jusqu'au bateau, puis de traverser par le ferry pour visiter Pigeon House. Léo Dillon avait peur qu'on tombe sur le père Butler ou sur quelqu'un d'autre en dehors du collège, mais Mahoney, avec beaucoup de pertinence, lui demanda ce que le père Butler pourrait bien aller faire à Pigeon House. Cela nous rassura, et je remplis la première partie de la mission en collectant les 6 pence des 2 autres tout en leur montrant les miens. Alors que nous achevions nos préparatifs, la veille au soir, nous étions tout excités. Nous nous serrâmes les mains en riant, et Mahoney dit « À demain, les gars !» Je dormis mal cette nuit-là. Le lendemain, je fus le premier sur le pont, car c'était moi qui habitais le plus près. Je dissimulais mes livres dans l'herbe haute près du bac à cendres, dans le fond du jardin où personne n'allait jamais, et je me hâtais vers les rives du canal. C'était un matin doux et ensoleillé de la première semaine de juin. Je m'assis sur le parapet du pont et admirai mes fragiles chaussures de toile que j'avais soigneusement nettoyées durant la nuit, ainsi que les dociles chevaux qui tiraient une charrette d'hommes d'affaires jusqu'en haut de la colline. Toutes les branches des grands arbres qui bordaient l'allée étaient joyeusement parées de petites feuilles d'un vert tendre, et les rayons du soleil les traversaient pour illuminer l'eau. Le granit du pont commençait à se réchauffer, et j'y battais la mesure d'une mélodie que j'avais dans la tête. J'étais très heureux. Alors que j'attendais là depuis 5 à 10 minutes, je vis approcher le manteau gris de Mahony. Il montait la colline en souriant et grimpa pour s'asseoir à côté de moi sur le pont. Comme nous attendions, il sortit la catapulte qui bombait sa poche intérieure et m'expliqua les améliorations qu'il lui avait apportées. Je lui demandai pourquoi il l'avait apportée et il me dit qu'il comptait descendre des oiseaux. Mahony s'exprimait volontiers en argot et appelait le père Butler le vieux Bitler. Nous attendîmes encore un quart d'heure, mais il n'y avait toujours aucun signe de Léo Dillon. Mahony enfin sauta sur ses pieds et dit « Viens, j'étais sûr que le gros lard allait se débiner. »« Et c'est 6 pence ?» demandai-je. « C'est le prix de sa lâcheté, » dit Mahony. « Et tant mieux pour nous, ça fera 18 au lieu de 12 pence. » Nous longeâmes North Stand Road jusqu'aux usines Vitriol, puis nous tournâmes dans Wharf Road. Mahony commença à jouer à l'Indien aussitôt que nous fûmes hors de vue des gens. Il prit en chasse un groupe de filles en haillons, en brandissant son lance-pierre, qui n'était pas chargé, et quand 2 garçons déguenillés arrivèrent pour jouer les chevaliers et nous lancer des pierres, il me proposa de les charger. J'objectai que ces garçons étaient trop petits, et ainsi nous passâmes notre chemin. La troupe de loqueteux hurlait derrière nous. « Parpaillot, parpaillot !» Persuadés qu'ils étaient que nous étions protestants, car Mahony, qui avait le teint hâlé, portait le badge d'argent de son club de cricket sur son manteau. Quand nous arrivâmes au Smoothing Iron, nous voulions faire une manœuvre d'encerclement, mais c'était impossible à deux. Nous nous vengeâmes sur Léo Dillon en nous rappelant quel trouillard il faisait et combien il allait prendre à 3 heures de Mr. Ryan. Nous nous approchâmes alors de la rivière. Nous passâmes beaucoup de temps à marcher à travers les rues bruyantes, à regarder le travail des moteurs et des grues et à nous faire crier dessus par les conducteurs de chariots grondants parce que nous restions dans le passage. Il était midi quand nous rejoignîmes les quais et, comme tous les travailleurs semblaient déjeuner, nous achetâmes 2 gros pains aux raisins et nous nous assîmes pour les manger sur un gros conduit métallique au bord de la rivière. Nous nous régalions du spectacle du trafic de Dublin. Les barges qu'on voyait arriver de loin avec leur panache de fumée, la flotte brune des bateaux de pêche au-delà de Ringsend, les grands voiliers blancs qui déchargeaient sur le quai d'en face. Mahony dit que ce serait un bon truc de prendre la mer sur un de ces gros bateaux. Et même moi, en regardant les homas, je vis, ou imaginais, cette géographie qui m'avait été administrée parcimonieusement à l'école, prendre peu à peu consistance sous mes yeux. L'école et la maison semblaient reculer loin de nous, et leur influence sur nous semblait s'affaiblir. Nous payâmes pour traverser le Liffey par le ferry en compagnie de 2 travailleurs et d'un petit juif qui transportait un sac. Nous étions sérieux presque jusqu'à la solennité, mais une fois, durant le court trajet, nos yeux se rencontrèrent et nous rîmes. Quand nous accostâmes, nous regardâmes le déchargement du gracieux trois-mâts que nous avions observé depuis l'autre rive. Un badaud nous apprit qu'il s'agissait d'un navire norvégien. J'allais à la poupe et essayais de déchiffrer le nom, mais comme je n'y arrivais pas, je revins pour examiner les marins étrangers, pour voir si certains d'entre eux avaient les yeux verts, car j'avais des notions confuses. Mais les marins avaient les yeux bleus, ou gris, et même noirs. Le seul marin dont les yeux auraient pu passer pour verts était un homme de haute taille qui amusait la foule massée sur le quai en disant chaleureusement, à chaque fois que les planches tombaient, « Ça va, ça va !» Quand nous en eûmes assez de ce spectacle, nous marchâmes lentement dans Ringsend. Le jour était devenu torride, et dans les vitrines des épiceries, les biscuits moisis blanchissaient. Nous achetâmes des biscuits et du chocolat que nous mangeâmes religieusement en marchant à travers les rues sordides où vivaient les familles des pêcheurs. Nous ne trouvâmes aucun laitier, aussi nous nous arrêtâmes auprès d'un vendeur ambulant et achetâmes chacun une bouteille de limonade à la framboise. Rafraîchi, Mahony entreprit de pourchasser un chat dans une allée. Mais le chat s'échappa dans un vaste champ. Nous nous sentions tous les deux assez fatigués, et quand nous atteignîmes le champ, nous nous dirigeâmes tout de suite vers un talus, en haut duquel on pouvait voir le dodeur. Il était trop tard, et nous étions trop fatigués pour mettre à exécution notre plan de visiter Pigeon House. Nous devions être rentrés avant 16 heures pour que notre aventure ne soit pas découverte. Mahony regardait tristement son lance-pierre, et j'ai dû proposer de rentrer à la maison en train pour lui rendre un peu de vigueur. Le soleil se cacha derrière des nuages et nous laissa à nos pensées fatiguées et aux miettes de nos provisions. Nous étions seuls dans le champ. Au bout d'un moment, à rester sans parler sur le talus, je vis un homme s'approcher de l'autre extrémité du champ. Je le regardais paresseusement tout en mâchant l'une de ces tiges vertes dont les filles se servent pour prédire l'avenir. Il s'approchait le long du talus, lentement. Il marchait, une main sur la hanche et l'autre appuyée sur un bâton dont il frappait légèrement le gazon. Il était vêtu d'un costume miteux, d'un noir verdâtre, et portait un genre de chapeau melon assez haut. Il avait l'air plutôt vieux, car sa moustache était gris cendré. Lorsqu'il arriva à hauteur de nos pieds, il leva vivement les yeux vers nous, puis continua son chemin. Nous le suivîmes des yeux, et vîmes qu'après avoir fait peut-être une cinquantaine de pas, il fit demi-tour et revint sur ses pas. Il s'approchait très lentement, frappant toujours le sol de son bâton, si lentement que je crus qu'il recherchait quelque chose dans l'herbe. Il s'arrêta quand il arriva à notre niveau et nous souhaita le bonjour. Nous lui répondîmes et il s'assit à côté de nous dans la pente, lentement et avec mille précautions. Il commença à parler du temps qu'il faisait, disant que ce serait un été très chaud et ajoutant que les saisons avaient furieusement changé depuis qu'il était enfant, il y avait de cela très longtemps. Il dit que l'époque la plus heureuse de la vie était indubitablement le temps de l'école et qu'il donnerait n'importe quoi pour retrouver sa jeunesse. Tandis qu'il exprimait ses sentiments qui commençaient à nous ennuyer, nous demeurâmes silencieux. Alors il commença à parler d'école et de livres. Il nous demanda si nous avions lu la poésie de Thomas Moore ou les œuvres de Sir Walter Scott et de Lord Lytton. Je prétendis les avoir tous lus, si bien qu'à la fin il dit « Ah, je vois que tu es un rat de bibliothèque comme moi-même. Mais, ajouta-t-il en désignant Mahony qui nous regardait les yeux écarquillés, lui est différent, il aime plutôt les jeux. » Il dit qu'il avait toutes les œuvres de Sir Walter Scott et de Lord Lytton chez lui et qu'il ne se fatiguait jamais de les relire. « Bien sûr, dit-il, il y a des œuvres de Lord Lytton que les jeunes garçons ne doivent pas lire. » Mahony demanda pourquoi les jeunes garçons ne pourraient pas les lire, une question qui provoqua chez moi un peu de gêne et d'agitation, car j'avais peur que l'homme s'imagine que j'étais aussi stupide que Mahony. L'homme cependant se contenta de sourire. Je vis qu'il avait de grands trous dans sa bouche, entre ses dents jaunes. Ensuite, il nous demanda lequel de nous deux avait eu le plus de petites chéries. Mahony dit avec légèreté qu'il avait eu trois beautés. L'homme me demanda combien moi j'en avais eu. Je répondis que je n'en avais eu aucune. Il ne me crut pas et dit qu'il était sûr que je devais en avoir au moins une. Je demeurai silencieux. « Dites-nous, lui dit Mahony insolemment, combien vous en avez eu vous-même ? » L'homme sourit, comme la première fois, et dit que lorsqu'il avait notre âge, il avait beaucoup de petites chéries. « Tous les garçons, dit-il, ont une petite chérie. » Son attitude à cet instant me frappa par son étrange libéralité, pour un homme de son âge. Dans mon cœur, je pensais que ce qu'il disait à propos des garçons et des petites chéries était raisonnable, mais je n'aimais pas les mots dans sa bouche, et je me demandais pourquoi il avait tremblé une ou deux fois comme s'il avait peur de quelque chose, ou comme s'il avait un frisson soudain. Comme il reprit la parole, je remarquai que son accent était bon. Il commença à parler des filles, de leurs cheveux si doux et si jolis, de leurs mains si douces, et du fait qu'elles n'étaient pas toutes aussi bonnes qu'elles le semblaient quand on les connaissait un peu. Il n'y avait rien qu'il aimât davantage, disait-il, que de regarder une jolie jeune fille, ses belles mains blanches et ses beaux cheveux si doux. Il me donna l'impression de réciter quelque chose qu'il avait appris par cœur, ou d'avoir l'esprit hypnotisé par les mots de son propre discours, de telle sorte qu'il tournait en rond lentement toujours sur la même orbite. Parfois il s'exprimait comme s'il faisait simplement allusion à une chose bien connue de tous, et parfois il baissait la voix et parlait d'une voix mystérieuse comme s'il nous racontait un secret que les autres ne devaient pas entendre. Il répéta ses phrases, encore et encore, les faisant varier et les enrobant de sa voix monotone. Je continuais à regarder vers le bas du talus, tout en l'écoutant. Après un long moment, son monologue cessa. Il se leva lentement, nous dit qu'il devait nous quitter pendant quelques minutes, et dans mon champ de vision, je le vis s'éloigner lentement vers le bout du champ le plus proche. Nous ne dîmes pas un mot quand il fut parti. Après un silence de quelques minutes, j'entendis Mahony s'écrier « Eh ben, regarde ce qu'il est en train de faire !» Comme je ne répondais pas, ni ne levais les yeux, Mahony s'écria encore Eh ben, c'est un drôle de vieux fou. Au cas où il nous demande nos noms, dis-je, tu n'as qu'à t'appeler Murphy et moi Smith. Nous n'ajoutâmes rien. J'étais toujours en train de me demander si je partirais ou pas quand l'homme revint s'asseoir à côté de nous. Il venait à peine de s'asseoir que Mahony, apercevant le chat qui lui avait échappé tout à l'heure, bondit sur ses pieds et partit à sa poursuite dans le champ. L'homme et moi regardâmes la course-poursuite. Le chat échappa une fois de plus à Mahony, qui commença à lancer des pierres sur le mur qu'il avait escaladé. Puis, lassé, il se mit à marcher sans but à l'autre bout du champ. Après un laps de temps, l'homme s'adressa à moi. Il me dit que mon ami était un rustre et me demanda s'il était souvent fouetté à l'école. J'allais répondre, indigné, que nous n'étions pas des élèves de l'école publique pour nous faire ainsi fouetter, comme il disait. Mais je ne dis rien. Il commença à parler du châtiment corporel des petits garçons. Son esprit, comme s'il était à nouveau hypnotisé par son discours, semblait tournoyer lentement autour de ce nouveau centre. Il dit que quand les garçons étaient de ce genre, ils devraient être fouettés, et bien fouettés. Quand un garçon était un rustre indiscipliné, il n'y avait rien qui pouvait lui faire plus de bien qu'un bon sifflement de fouet. Une tape sur la main ou un coup de boîte sur l'oreille, ça ne valait rien. Ce qu'il voulait, c'était recevoir un bon fouet bien brûlant. J'étais surpris à cette idée, et involontairement je levai les yeux sur son visage, et alors je rencontrai le regard perçant d'une paire d'yeux vert bouteille qui me fixait sous un front crispé. Je détournai aussitôt les yeux. L'homme poursuivit son monologue. Il semblait avoir oublié tout le libéralisme dont il avait fait preuve précédemment. Il dit que si jamais il trouvait un garçon en train de parler aux filles ou avec une petite amie, il le fouetterait, et le fouetterait encore, et ça lui apprendrait à ne pas parler aux filles. Et si un garçon avait une petite chérie et racontait des mensonges à ce propos, il lui donnerait le fouet comme jamais personne n'avait donné le fouet dans ce monde. Il dit qu'il n'y avait rien au monde qu'il aimerait autant que ça. Il me décrivit comment il fouetterait un tel garçon, comme s'il me dévoilait un mystère complexe. Il aimerait ça, disait-il, plus que n'importe quoi au monde, et sa voix, tandis qu'il me guidait de son ton monotone à travers le mystère, devenait presque affectueuse et semblait me supplier de le comprendre. J'attendis que son monologue s'arrête à nouveau, puis je me levai brusquement. Pour ne pas trahir mon agitation, je m'attardai quelques instants en faisant semblant d'arranger ma chaussure, puis, au prétexte que je devais y aller, je lui dis au revoir. Je remontai le talus en hâte, mais mon cœur battait la chamade, tant j'avais peur qu'il ne m'attrape par les chevilles. Quand j'atteignis le haut du talus, je me retournai, et sans le regarder, je criai à travers le champ « Murphy !» Ma voix avait un accent bravache, et j'avais honte de mon pitoyable stratagème. Je dus appeler le nom encore une fois, avant que Mahony ne me voie et ne me réponde par un signe. Comme mon cœur battait quand il traversa le champ en courant pour me rejoindre. Il courait comme pour me porter secours, et moi, je me sentais fautif, car au fond de mon cœur, je l'avais toujours un peu méprisé.